Bienvenue à la conférence Alten sur le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2022. Je laisse à présent la parole à Bruno Benoliel, directeur général adjoint. Monsieur, c'est à vous.
Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre présence à notre conférence pour ce premier semestre 2022. Je pense que vous avez dû recevoir le communiqué. Vous avez donc dû, au travers des chiffres, vous rendre compte que le deuxième trimestre n'a finalement marqué aucune inflexion d'activité par rapport au premier trimestre et au dernier trimestre de l'an passé. Depuis maintenant un an, la croissance de l'activité se maintient à un rythme soutenu, malgré un contexte macroéconomique à risque et la guerre en Ukraine. Le chiffre d'affaires à fin juin 2022 s'établit donc à 1,826 milliards d'euros, en hausse de 31% par rapport à juin 2021. Il était de 1,395,2 milliards. En France, l'activité a progressé de 18,4% et de 38% hors de France. À données constantes, change et périmètre, l'activité a progressé de façon très soutenue, puisqu'elle progresse de 19,8%, soit plus 14,5% en France et plus 22,8% hors de France. Les acquisitions ont contribué à 30% de la croissance totale ce semestre et ont représenté 9% de notre chiffre d'affaires. L'effet de change a également contribué positivement du fait de la dépréciation de l'euro face à la plupart des monnaies. Aujourd'hui, un peu plus de 30% du chiffre d'affaires du groupe est réalisé hors zone euro et l'international représente maintenant plus de 67% de l'activité du groupe. Au second trimestre, notre chiffre d'affaires s'établit à 931,3 millions d'euros, en hausse de 30,4% par rapport à juin 2021. À données constantes, il croît de 18,9%, plus 14,2% en France et plus 21,5% hors de France. Le taux d'activité est resté élevé. Il a été de 92,9% au second trimestre, supérieur à notre taux normatif de 92%. En conséquence, sur le premier semestre, le taux d'activité du groupe est de 92,7%. De façon finalement assez logique, le turnover est resté également élevé. Les deux facteurs peuvent être assez liés. Taux d'activité élevé et turnover élevé, c'est signe que l'activité va bien. Notre turnover est de l'ordre de 28%. Il est plus élevé que ce que l'on souhaiterait, vous en doutez bien, puisque notre taux de turnover cible est de l'ordre de 20-22%. Néanmoins, le groupe a réussi à accroître ses effectifs ingénieurs de 6 500 personnes ce semestre, dont 3 440 de façon organique, 450 en France et 2 990 hors de France. Les acquisitions ont donc représenté 3 060 ingénieurs. En conséquence, alors qu'Alten comptait 42 300 collaborateurs à la fin du mois de décembre passé, dont 37 150 ingénieurs, nous sommes maintenant 49 600 fin juin 2022, dont 43 650 ingénieurs, répartis de la façon suivante. 10 800 en France et 32 850 hors de France. Alors, si on regarde l'activité par zone géographique, comme on le fait habituellement, avant de la regarder par secteur, en France, notre progression est essentiellement due au secteur de l'aéronautique civile, qui représente un quart du chiffre d'affaires France, en progression de plus de 45%, et qui a maintenant, en France, dépassé son niveau d'avant-crise. Progression due également au nucléaire et au secteur des équipements pour l'énergie, qui représentent à eux deux 10% du chiffre d'affaires et une croissance supérieure à 20%. L'automobile, 10% du CA France, ne croît que de 6%, c'était zéro au premier trimestre. La croissance s'est donc accélérée au deuxième trimestre, mais la croissance s'est réalisée en grande partie avec le recours à des projets en nearshore offshore pour les constructeurs français, secteur qui est encore en deçà de son niveau pré-Covid en France. En Europe, hors de France, l'activité est en forte croissance, comme vous pouvez le voir sur les slides qui ont dû vous être distribués. dans la plupart des zones géographiques, à l'exception de la Scandinavie et de la Suisse. En zone ibérique, notre activité croît de plus de 23%. Tous les secteurs sont en forte croissance, en particulier aéronautique civile, finances tertiaires, industrie et télécom. En Allemagne, la reprise de l'activité qui avait accéléré au premier trimestre s'est confirmée ce deuxième trimestre. Au premier semestre, l'activité en Allemagne a donc cru de façon organique de 23,5%. L'aéronautique est en progression de plus de 30%, c'est 16% du CA allemand, mais reste en Allemagne encore en retrait par rapport à début 2020, alors que l'automobile, qui représente près de la moitié du chiffre d'affaires allemand, progresse de 32% et a redépassé largement son niveau d'avant-crise. Tous les autres secteurs d'activité principaux sont également en forte croissance en Allemagne. En Italie, la croissance se maintient à près de 27% pour la troisième année consécutive. Tous les secteurs sont en progression, sans exception. Au Benelux, la croissance a confirmé son accélération constatée fin 2021 et au premier trimestre de cette année. Elle atteint donc 17,1% à fin juin 2022 grâce aux Pays-Bas, où la croissance est presque de 60% et où l'activité est en très forte progression grâce aux comptes électroniques, semi-conducteurs, énergie et équipements industriels. A contrario, la Belgique croît assez faiblement. Au UK, notre activité croît de 25%, une activité qui a très fortement rebondi dans les secteurs aéronautiques qui croissent de plus de 100%, un petit tiers du chiffre d'affaires, automobile qui croît de près de plus de 30%, 15% du chiffre d'affaires, défense et électronique. En Scandinavie, notre croissance avait rebondi au premier trimestre 2022, mais a ralenti au second pour s'établir à 5% sur le premier semestre. Une activité qui progresse sensiblement dans les secteurs historiques et prépondérants que sont les comptes auto et poids lourds et finances tertiaires, mais en recul dans tous les autres. Scandinavie, le sujet est plus managérial, comme en Suisse d'ailleurs, qu'un sujet lié au marché et à l'activité. En Europe de l'Est, progression qui reste très soutenue, à 40%, grâce à la Pologne, qui croît de plus de 50%, tous secteurs confondus. Quant à la Roumanie, qui représente 40% de la zone, comme vous le savez sûrement, l'activité croît de plus de 20% grâce aux comptes auto et énergie. Voilà pour le tour de l'Europe. Si on passe en Amérique du Nord maintenant, aux États-Unis, l'activité croît de 23%, les activités qui représentent 80% de la zone. Au Canada, qui représente donc 20% de la zone, la croissance est supérieure, puisqu'elle est supérieure à 30% grâce au secteur finance tertiaire et aéronautique. En zone Asie-Pacifique, un rythme de croissance qui a encore progressé au deuxième trimestre, pour s'établir à plus de 40% sur le premier semestre, en données constantes. La Chine croît de 27% grâce au secteur auto, l'Inde de 40% grâce au secteur tertiaire, semi-conducteur et auto, le Japon 10% de la zone de plus de 50%, et enfin Singapour, dont on a peu parlé, mais qui représente aujourd'hui à peu près 10% de la zone Asie-Pacifique, et qui croît de plus de 60% grâce au secteur finance tertiaire et énergie. Une croissance qui est donc restée forte ce semestre dans la quasi-totalité des zones géographiques. Pardon. Si on analyse l'activité maintenant par verticale, tous les secteurs d'activité sont en croissance, même si évidemment les rythmes de croissance diffèrent. L'automobile a poursuivi son rebond. Elle représente à nouveau plus de 17% du chiffre d'affaires, une activité en croissance organique de près de 30%, qui croît plus fortement chez les équipementiers que chez les constructeurs. Le ferro-naval, 3,6% du CA, est en léger recul à cause du ferro, qui a été affecté par une baisse de l'activité chez Bombardier, comme au premier trimestre. L'aérospace, pas loin de 13% du chiffre d'affaires, est en hausse de près de 55%. Une reprise très vigoureuse dans l'aéronautique civile, supérieure à 60%, essentiellement évidemment drivée par les comptes Airbus. Mais chez les équipementiers, la reprise est encore plus forte, puisque supérieure à 100%, avec des comptes comme Safran, Rolls-Royce ou Thales. Dans le domaine spatial, en revanche, notre croissance est plus mesurée, même si elle reste satisfaisante. Le recul sans précédent de 2020 est maintenant comblé. Les activités de défense et sécurité, 5% du CA, sont en croissance de 16%. L'énergie, 9,3% du CA, progresse de 6%, mais avec des situations différentes, selon qu'il s'agisse de l'oil and gas qui continue à reculer. Nous sommes en train de sortir de la Russie, qui représentait 21 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Donc la sortie définitive au cours du second semestre 2022 va contribuer probablement à accentuer ce recul. Le nucléaire, lui, croît de près de 5% dans un contexte de pénurie d'ingénieurs chronique. L'énergie est donc essentiellement tirée aujourd'hui par le domaine des équipements pour l'énergie, qui progresse de plus de 20%, en partie grâce aux énergies renouvelables. Les sciences de la vie, 9% du chiffre d'affaires, croissent de 10% dans tous les secteurs, équipements et pharmacie. Le secteur des autres industries progresse également de 10% grâce au secteur des équipements industriels. Les télécoms sont en croissance légère, 3%, avec une activité qui recule chez les opérateurs, mais croît de plus de 15% chez les équipementiers. L'activité électronique, médias, e-commerce, à peu près 8% du CA, maintient son rythme de croissance de 30% grâce aux activités semi-conducteurs, électronique et e-commerce. Quant au secteur finance tertiaire, qui représente un quart du chiffre d'affaires, il est en hausse de 21%, une activité qui progresse assez fortement dans la banque et l'assurance, de 17%, plutôt en Amérique du Nord et en Europe du Sud. Quant au retail et aux services, la croissance a accéléré à 24%. En synthèse, hormis les télécoms, le rail et le naval, dont la croissance est nulle ou faible pour ces trois secteurs, et qui représentent à eux trois moins de 10% du chiffre d'affaires du groupe, Alten a 90% de son activité dans des secteurs en forte croissance et sans aucun warning à date. Côté croissance externe, nous avions acquis 4 sociétés sur ce premier semestre. 3 sociétés ont déjà été annoncées lors des publications précédentes. Nous avons rajouté une 4e société en Australie, une société spécialisée dans le management de projets, comme vous voyez, de taille assez modeste, mais qui vient renforcer une activité que l'on a dans ce pays et qui est déjà présente. Actuellement, nous avons d'autres dossiers, aucun dossier très important en taille, dans des pays aussi différents que l'Inde, la Roumanie, l'Australie, l'Allemagne et les US. Pour 2022, je lis comme vous la presse, j'entends les commentaires marché. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à date, nous n'avons pas de signe de ralentissement d'activité. Peut-être vous dirai-je autre chose à la conférence de septembre lorsqu'on publiera nos résultats, mais pour l'instant, ça va bien. Les secteurs aéronautique, civil et automobile ont retrouvé ou dépassé leur niveau d'avant-crise, beaucoup plus tôt que nous l'avions anticipé. À contexte inchangé donc, notre croissance organique au second semestre 2022 sera donc logiquement bien supérieure à 10%. Voilà, je laisse la parole aux participants à la réunion. Mademoiselle, si vous voulez bien ouvrir la conférence de manière à ce qu'ils puissent poser leurs questions.
Merci. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Alors, nous avons une première question de Emmanuel Parot pour Gilbert Dupont. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonsoir Bruno. Peut-être une question sur votre politique de recrutement sur le T3. Bon, d'un côté, la demande reste forte, tu l'as précisé, mais il y a un contexte qui est un peu plus incertain. Je voulais savoir quelle allait être votre politique de recrutement sur le T3. Et ma deuxième question, c'était plus la question un peu habituelle sur l'évolution des l'inflation salariale du S1 et de votre capacité à répercuter dans les prix. Sur le dernier call de mémoire, vous disiez que voilà, ça mettait un petit peu de temps à égaliser l'inflation des la hausse des prix de vente. Je voulais peut-être avoir un petit update sur le sujet. Merci.
D'accord. Alors, concernant la politique de recrutement, pour l'instant, on ne l'a pas infléchi. C'est-à-dire que on essaye de maintenir le turnover à un niveau acceptable. On n'a pas noté de décélération du nombre de démissions, ce qui est un indicateur. Donc, il nous faut, si je puis dire, tenir les projets. On reçoit toujours un nombre d'appels d'offres à peu près équivalent, ce qui fait que notre enjeu, c'est non seulement de ralentir le turnover, mais de continuer à recruter pour faire face à la demande. Donc, pour l'instant, on n'a pas décidé d'infléchir les recrutements, de les ralentir, puisque ça porterait préjudice à l'activité. Si la situation changeait, évidemment, on s'adapterait, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. D'ailleurs, on aurait pu faire une croissance bien supérieure si on avait réussi à recruter plus. Malheureusement, ça n'a pas pu être le cas. Donc, il y a des pays ou des secteurs où la croissance a été limitée de ce fait. Et pour la rentrée, les appels d'offres qu'on a reçus, y compris d'ailleurs aux US, ne montrent pas de diminution de la taille des projets. Et donc, pour l'instant, on ne change pas de politique. Concernant l'inflation salariale, elle progresse. On a décidé d'anticiper un certain nombre d'augmentations de salaire qui, chez nous, se font dans certains pays à date anniversaire. Là, on a décidé d'anticiper des campagnes de quelques mois, justement, pour fidéliser les gens. On aura donc cette année un effet sur les salaires qui conduira. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on a des effets de mix importants entre les pays, les entrées de nouvelles sociétés dans des pays où les salaires sont plus faibles. Donc, si on raisonne, autant que faire se peut, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire en tentant de dépolluer les effets de mix et en regardant les choses société par société, on aura à faire face cette année une augmentation du salaire moyen, même si nominalement, du fait de sociétés acquises dans des pays et du développement d'ailleurs plus important dans certains pays que dans d'autres où les salaires sont plus faibles, on aura probablement une stabilité ou une baisse du salaire moyen. Mais en réalité, c'est une donnée qui est en trompe-l'œil parce qu'économiquement, pour la première fois, on va avoir depuis longtemps un salaire moyen qui va augmenter, toutes choses égales par ailleurs. On a donc évidemment essayé de répercuter toutes les hausses de salaire sur les tarifs. À part le secteur auto en France, notamment, mais pas que, mais principalement, et le compte Airbus, où les ajustements de tarifs sont compliqués puisque les référencements sont pluriannuels, on a réussi, on va dire, à faire passer sur un gros deux tiers, 75% de nos clients, des augmentations de tarifs qui couvrent les hausses de salaire. Néanmoins, on ne peut plus raisonner à l'échelon du groupe en évolution des prix moyens, évolution des salaires moyens, pour les raisons que j'ai dites, parce que c'est beaucoup trop complexe du fait des effets de mix à analyser. En revanche, ce qu'on peut analyser, c'est l'incidence au global, la résultante du ratio prix-salaire, qui prend en compte évidemment tous ces effets de mix, et qui, je le confirme, se verra plus au second semestre, évidemment, parce qu'on a des campagnes d'augmentation qui se perdent tout au long de l'année qu'au premier, et qui conduira à un pincement sur la marge brute par rapport à l'an passé de l'ordre de 70 à 80 bips. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question.
Ouais, bah écoute, c'est très clair. Merci beaucoup.
Merci. Nous avons une nouvelle question de Grégory Ramirez pour Brian Garnier. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonsoir Bruno. Moi, j'aurais une question sur le retrait de la Russie. Donc, tu parlais de 21 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Avec le retrait progressif, mais qui sera finalisé sur le F2, qu'est-ce qu'on peut attendre d'effet, justement, de ce retrait en impact sur chiffre d'affaires sur le F2? Est-ce que c'est de l'ordre de quelques millions d'euros? Est-ce que c'est une dizaine? Et puis, j'imagine qu'il y aura un effet embarqué sur 2023 compte tenu du fait qu'il a été assez tardif, à moins que déjà sur le S1, le chiffre d'affaires avait considérablement baissé.
Oui, en gros, on a perdu déjà la moitié de l'activité sur la Russie par rapport à notre embarqué sur le premier semestre. Et donc, ça va se terminer en biseau sur le second semestre. Donc, il n'y aura pas d'effet au contenu de la dynamique de croissance. Alors, évidemment, si on raisonne en se disant qu'on avait maintenu l'embarqué, bah, notre chiffre d'affaires fin d'année aurait été majoré d'une vingtaine de millions d'euros. Là, par rapport à l'an dernier, on a déjà divisé par deux à fin juin.
D'accord, merci.
Merci. Nous avons une prochaine question de Aditya Badouvarapu pour Bank of America. C'est à vous.
This is Aditya from Bank of America.
Bonjour, merci de prendre ma question. En fait, j'ai deux questions. Vous avez mentionné que dans le deuxième semestre, nous avons 10% de croissance organique. Est-ce que vous pouvez parler des hypothèses sous-jacentes? Est-ce qu'il y a des hypothèses par rapport à la situation macro, ce que disent les clients? Et deuxième question, considérant vos commentaires par rapport à l'inflation des prix, est-ce qu'on peut considérer que la marge est quand même autour de 10%? Ou est-ce que vous avez un peu plus de visibilité sur les marges par rapport peut-être à il y a quelques mois?
D'accord. Bon, je vais, si ça ne dérange pas les participants, je vais essayer de répondre en anglais à la question. Ce sera plus clair, je pense. Bon. When I said that the organic growth will be much above 10% for H2, of course, we have taken into account different assumptions regarding the economy evolution. So when we mean above 10%, of course, it's not 10%. Could be 12, could be 13, could be 14 or 15. 12 is unlikely to be achieved since that the fact that we have an embedded growth for H2. So it should be above. It's difficult to know exactly because everyone is expecting a recession in H2 that, to be frank, we do not see at all today. But we have to be cautious. Reason why we said that. But you can consider that the growth in H2 should be comprising between, I think, 12.5%, 13%. I mean, if the situation is deteriorating rapidly after summer, which is not our main assumption today, up to 15% if the situation is, I mean, stabilizing or slightly declining in H2. Also taking into account that we have a comparison basis which is less favorable, of course, in H2 than in H1, as Q1 2021 was weak because of the COVID crisis. Regarding our margins, of course, we have some view regarding the margin. H1 will be good, probably that year much better than H2. Because we have just two working days difference between H1 and H2, which is not enough to offset the vacation, as people are on holidays, I mean, not all, but most in many countries during July or August. Also, we're going to have an average wage, which will be higher in H2 compared with H1. As we are giving to our employees wage increase at their anniversary date. So for all these reasons, we expect H2 to be weaker than H1. H1 will be good, really good, and of course, we are very confident, except if there is a crash, of course, in H2. Again, this is not our assumption, will be above 10%, as we said, comprising probably between 10 point something and 10.5 over 2022.
Merci. Nous avons
oui, donc, juste pour confirmer votre commentaire donc sur 10%, donc 10% de marge pour la deuxième moitié de 2022. Vous dites que vous serez au-dessus de 10% de marge?
Ce que j'ai dit, c'est que on aurait une bonne marge au H1 et qu'au H2, on aurait une marge qui serait moins bonne qu'au H1 pour les raisons que j'ai expliquées. Qui néanmoins devrait rester au-dessus de 10% et qu'au global sur l'année, on aura donc une marge qui sera probablement, sauf modification importante de l'économie sur le deuxième semestre, qui sera nécessairement comprise entre 10,2 et 10,5. En prenant des hypothèses hautes et des hypothèses basses, évidemment.
Okay, thank Merci. You very much.
Nous avons une prochaine question de Axel Stas pour Berenberg. C'est à vous.
Oui, bonjour. Merci de prendre ma question. J'avais une question concernant la Scandinavie qui a été un peu plus compliquée en termes de croissance, si j'ai bien compris. Pourriez-vous juste expliquer ce que vous entendez par un sujet plutôt managérial qu'un sujet de marché?
En fait, on est dans une activité où, évidemment, la dynamique marché est importante, mais où la capacité du management à driver son organisation, à aller chercher des clients et à gagner les projets est probablement aussi importante. D'ailleurs, on le voit bien sur un pays comme l'Italie, et en général l'Europe du Sud, où on a un très bon management, et où même pendant la période de Covid, la société, à cet endroit, a maintenu des taux de croissance qui étaient vraiment élevés. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on a un marché sous-jacent en Scandinavie qui est bon dans le domaine auto et poids lourd, plus compliqué parce qu'on a moins la taille critique dans les autres secteurs, et que, c'est d'ailleurs là, ce que je vous dis vaut aussi pour la Suisse, si le management n'est pas suffisamment performant, eh bien, forcément, notre performance est moins bonne. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas forcément le marché scandinave qui va mal, c'est peut-être que nous ne sommes pas suffisamment bons dans le marché scandinave.
Voilà. Ok, très clair, merci.
Merci. Nous avons une prochaine question de Laurent Dor pour Kepler Chevreux. C'est à vous.
Oui, bonsoir Bruno. J'avais bonsoir, plusieurs questions. La première question, c'est sur les effectifs en hausse séquentielle, en organique, sur T2, entre France et internationale, tu es sur quelle dynamique?
Alors, France plus 125. Internationale, que T2. Plus 1365.
Ok, donc tu es sur un rythme un peu supérieur à ce que j'avais évoqué, peut-être 1000-1500, tu as fourchette haute pour l'instant, et c'est un rythme que tu entends poursuivre sur les 3-6 prochains mois, hors catastrophe macro?
Si l'activité va pas trop mal, en général, ça ralentit. Enfin, il y a toujours un creux sur Q3, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de départs en juillet, enfin fin juin, comme à fin décembre, comme tu sais, et juillet-août sont des mois plus faibles en termes de recrutement, puisque les gens ne sont pas là. Donc ensuite, ça reprend sur octobre, mi-septembre, fin septembre. Donc on a toujours un creux saisonnier sur Q3. Et ensuite, si l'activité est vraiment bonne, en règle générale, on a un bon Q4. Voilà. Donc on aura moins de recrutement sur Q3, ça c'est quasiment sûr, net, que ceux des deux premiers trimestres. Et puis, on pourra éventuellement revenir sur un recrutement, un niveau de recrutement identique à Q2 sur Q4. Bon, évidemment.
Et entre offshore et onshore, il y a toujours plus d'accélération sur la partie offshore.
On a beaucoup recruté au premier semestre. On n'a pas fait que de l'offshore, hein, loin s'en faut. Hein. On a beaucoup recruté dans d'autres pays. Ouais.
Alors, j'avais une seconde question par rapport à la question de Gregory sur la sortie de la Russie. En termes de restructuring ou autre, est-ce qu'on a quelque chose de particulier à attendre ou c'est marginal?
Non, c'est marginal. Ça passera en non récurrent. Si on décide de provisionner quelque chose, on est en train de finaliser là. Mais ça va pas être, ce sera pas un montant, ce sera inférieur à 5 millions d'euros quoi qu'il arrive.
Il y avait combien de personnes en fait qui bossaient?
Au début on était 120, et là maintenant on est un peu plus de 60.
Alors c'est pas des gens que tu peux recycler s'ils bougent hors de la Russie, c'est des gens à sortir.
En fait c'est assez compliqué comme situation parce qu'on a des clients qui ne sont pas des clients russes. L'essentiel de nos clients sont des clients européens installés en Russie et travaillant pour l'essentiel, pour les opérations gazières et pétrolières en Russie. Des fois dans des consortiums d'ailleurs, pour des consortiums qui sont sino-russes. Donc, bon, il y a une certaine... je ne veux pas rentrer trop en détail, mais... Il y a une certaine complexité contractuelle liée à nos engagements, ce qui fait que le plus simple, c'est de faire comme en faisant du vélo, c'est-à-dire qu'on arrête de pédaler, puis ça finit par s'arrêter. Et puis pour le reste, Non, c'est que quand les projets, en fait, c'est se retirer, c'est pas nécessairement rompre les contrats, parce qu'on a des engagements vis-à-vis de nos clients, on ne peut pas comme ça, surtout que c'est des gros clients, leur dire on s'en va du jour au lendemain, parce qu'en plus, c'est, encore une fois, ce n'est pas des clients russes, mais ce qu'on peut faire, c'est, si on décide de partir, on informe nos clients, et puis ensuite, ils se débrouillent pour trouver des solutions de substitution. Mais on ne peut pas planter les gens du jour au lendemain.
Ok, mais tu ne peux pas délivrer le service d'une autre zone géographique.
Non, c'est forcément en Russie.
C'est du sur-site, C'est sur-site, ouais,
Bien sûr. Par exemple, c'est à Yamal, c'est sur LNG2, c'est sur... sur Arctic LNG2, par exemple, on a plein de consultants.
D'accord. Et dernier point, sur un secteur qui a toujours été le plus rapide à souffrir des mouvements macro, si on rentrait un peu plus dans le détail de l'automobile, est-ce que aujourd'hui, sur ce vertical en particulier, tu as certains clients qui ont commencé à évoquer des décalages de contrats ou autres sur la fin d'année?
Absolument pas. Aucun.
Bon. Donc le train du
T2... C'est pour ça qu'il y a entre la macroéconomie et ce que disent les marchés, la réalité de certains corpos, pour l'instant, alors peut-être que ça va venir d'un coup à la rentrée, c'est pas impossible, j'en sais rien, mais on a quand même en règle générale, on a indépendamment des chiffres, qui ne font que mesurer le passé, les chiffres financiers. On a quand même des indicateurs opérationnels qui sont ceux qu'on utilise pour justement piloter les recrutements et anticiper ce qui peut advenir de l'activité, qui sont le nombre d'appels d'offres reçus, la taille des projets dans les consultations, les cycles de décision des clients, notre taux d'activité, la durée de l'intermission, enfin je peux vous faire la liste de tous nos outils de pilotage. Aujourd'hui, il n'y a pas de warning particulier. Peut-être que le 23 septembre, on aura tout le mois de septembre de recul, on dira autre chose, mais aujourd'hui, ça va bien. D'ailleurs, vous voyez les chiffres de juin, ils sont très bons.
Et le churn du staff, parfois, sur des récessions passées, on avait d'abord eu une baisse de l'attrition chez les ingénieurs.
Ouais.
Est-ce que, par exemple, sur les 2 à 4 dernières semaines, tu commences à constater que ça bouge un peu moins ou c'est toujours 28%?
Non, ça bouge pas.
D'accord. On va dire rendez-vous
ça bouge pas. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, ce que j'expliquais pendant la conférence, on a décidé à certains endroits d'anticiper les augmentations de salaire pour contenir le turnover, parce que les gens qui devaient être augmentés en fin d'année ou peut-être avancés d'un trimestre, ou ceux qui devaient être augmentés en octobre-novembre, peut-être passer les augmentations dès septembre, pour justement fidéliser nos ingénieurs.
Et c'est toujours les clients en priorité qui débauchent?
Oui.
Ça n'a pas changé, ça.
Alors, c'est pas toujours le client chez qui l'ingénieur ou les ingénieurs sont en projet, hein, ou pour lesquels ils sont en projet. Ça peut en être d'autres, hein, mais ils vont très très souvent, ils sont chassés, ils vont chez les industriels.
Donc les clients eux-mêmes semblent être confiants sur les tâches qu'ils auront à faire à la rentrée s'ils continuent à débaucher chez Alten.
Oui.
Ok, ben c'est très clair. Merci pour tout, Bruno.
Je t'en prie, Laurent.
Merci. Nous avons une prochaine question de David Marcon pour Société Générale. Monsieur, c'est à vous.
Salut, Bruno.
Bonjour, Eric.
Plusieurs petites questions. La première, c'était que tu précises si, quand tu parles de moins 70 à moins 80 points de base sur la marge, tu as dit marge brute. Tu parlais marge sur jour vendu, marge brute. Il y a plein dedans, tu inclus un effet taux d'utilisation.
Non, c'est hors. C'est vraiment sur la marge brute directe sur projet. C'est-à-dire que...
Et alors, juste essayer de comprendre, en fait, donc dans ton scénario full year, dans ton lending, tu es entre 10,2 et 10,5. Donc, en fait, tu vas plus que compenser l'effet pincement marge sur projet, marge directe sur projet ou marge sur vendu. Et en même temps, tu as un jour de moins facturable. Donc, je voulais juste essayer de comprendre ce que tu as pris comme hypothèse. Qu'est-ce que tu as pris comme hypothèse au niveau du taux d'utilisation pour le second semestre? Je pense que tu vas faire un S2 2022 aussi fort que S2 2021. Et est-ce que tes SG&A, en fait, en pourcentage du chiffre d'affaires, c'est un headwind ou un tailwind par rapport à 2021? Parce que c'est vrai que tu avais ton scénario de marge expliqué en début d'année, tu voyais plutôt une baisse par rapport à 2021 parce que tu avais laissé salaire, laissé... réinvestir, etc. Est-ce que c'est toujours le cas ou avec l'effet volume, finalement, les SG&A, elles ne vont pas t'en remonter que ça?
Alors, en fait, c'est... je comprends bien les questions, mais en fait, il y a des effets dans tous les sens qui jouent sur la composition de la marge. Alors, la marge brute, je parle bien effectivement de la marge brute directe sur projet. Après, par rapport à 2021, on a un taux d'utilisation qui est meilleur, donc qui va compenser forcément cette perte de marge brute liée, on va dire, aux fondamentaux. On a des effets mix qui sont aussi bien géographiques que des effets mix par verticale, qui font aussi bouger la marge en moyenne sur la société. On a la marge brute chez nous est composée des marges directes sur projet et aussi d'un certain nombre d'autres éléments qui sont nécessaires à la réalisation des projets, des locaux, parce qu'on a énormément de locaux. Il y a beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui parce qu'on a des équipes de taille assez significatives qui travaillent dans nos locaux pour les clients. Les outils, on a des structures d'encadrement technique, des centres de compétences et d'expertise, etc. Tout ça, ça fait partie de la marge brute, mais ça évolue pas proportionnellement au chiffre d'affaires. Donc ça peut jouer, ça joue d'ailleurs un peu un rôle d'amortisseur sur la marge brute dans son ensemble. A contrario, nos SG&A, cette année, ils vont être supérieurs à ceux de l'an passé. Ça, je l'avais annoncé dès 2021, et je vous confirme qu'ils seront supérieurs tant en sales et recrutement, donc la partie qui est nécessaire à la réalisation du business, que en G&A, où on a repris, évidemment, un certain nombre de dépenses de com qui avaient disparu en 2020 et 2021, notamment en recrutement. On a réentrepris, enfin, on a des efforts de structuration à mettre en œuvre pour accompagner la taille, etc., etc. Donc, on va revenir sur des niveaux de SG&A qui sont des niveaux normatifs, voire peut-être à certains endroits un peu supérieurs compte tenu de la croissance. Donc, une fois qu'on a dit tout ça et qu'on secoue, donc, parce qu'en fait, l'équation n'est pas aussi simple, on a effectivement des hypothèses d'atterrissage, mais qui sont aussi fonction du taux d'utilisation. Donc le taux d'utilisation, on l'a pris un peu inférieur à H1, mais on ne l'a pas pris non plus de façon très dégradée, et qui sont aussi facteurs des contributions de chaque périmètre ou de chaque pays en projection sur H2. Ce qui est sûr, c'est qu'on a H1 qui va être bon. Je ne vais pas vous donner les chiffres maintenant, même si je les ai, mais on a un bon H1. On a 0 jour ouvré d'écart par rapport à l'an dernier sur H1. Et on a, par rapport à l'an dernier, 1,7 jour ouvré de moins au H2. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un effet de balancier entre H1 et H2 avec aux alentours d'un point d'écart, je pense, entre les deux semestres. Le tout dedans un EBIT qui de toute façon, enfin, sauf vraiment une catastrophe au second semestre, je suis pas du genre ultra optimiste tout le temps, mais je suis pas pessimiste sur le second semestre, parce que le troisième trimestre est aujourd'hui embarqué et il n'y a pas de signe particulier de ralentissement. Bon, ça voudrait dire que ça jouerait sur le dernier quadrimestre. On sera au-dessus, on l'a dit d'ailleurs, on sera au-dessus des 10%, ça c'est sûr, et peut-être qu'on arrivera à tangenter les 10,5. Voilà. En l'état actuel de nos projections, peut-être que je matinerai mon propos au mois de septembre, mais aujourd'hui on est plutôt confiant.
Mais à ton 10,5, juste pour bien comprendre la mécanique, à ton haut de fourchette, 10,5, tu n'as pas forcément un H2 qui est inférieur à H1.
Bah si, parce que H1 il sera supérieur à H2.
Mais tu n'as pas dit dans le call que H2 serait forcément supérieur à 10? Non, ça ne matche pas avec ton bas de fourchette.
Si, H2 il sera à 10 à peu près. J'ai dit que je parlais de la croissance sur les 10%, j'ai dit qu'on serait bien supérieur à 10% de croissance et on aura un H2.
En marge, Bruno, t'as pas dit que H2, en marge d'exploitation, en EBIT margin, t'as pas dit que H2 c'est supérieur à 10%?
Si, le H2 il sera supérieur à 10%, mais pas bien supérieur à 10%. Il va être autour de 10% le H2.
D'accord. Et ma deuxième question, c'était sur le net staff hiring France. Alors je sais que trimestre, ça ne peut pas dire grand chose, qu'il y a l'effet nearshore ou offshore à prendre en compte. Mais est-ce que le 125 de net staff hiring sur le T2, c'était ce que vous aviez projeté et comment tu le qualifierais? Est-ce que c'est un niveau qui vous a surpris agréablement ou désagréablement? Et est-ce que tu as une visibilité sur les départs à fin juin est-ce que tu faudras combler sur le futur pour avoir un net staff hiring
Non, alors pour l'instant... Non, pour l'instant, non. Je n'ai pas de visibilité sur les départs à fin juin suffisante, mais sur la France, sur Q2, on pensait en net qu'on aurait une progression supérieure. On a un certain nombre de secteurs, dont le nucléaire, pour ne pas le citer, où on n'arrive pas à fournir. Bon. Et on a, sur la France... un taux de départ qui est élevé. Donc on pâtit vraiment en France de la dynamique de recrutement qui pour l'instant est compliquée.
Ouais, mais au cas, tu avais fait 325 et tu avais un taux de turnover qui était aussi élevé en fait. Il n'y a pas de... Qu'est-ce qui a changé
Non, il n'y a rien qui a changé, sauf qu'on a fait effectivement 325 où la dynamique était à peu près la même, mais... sur Q2, on n'a pas recruté autant de monde que ce qu'on aurait souhaité recruter, et puis on a perdu un peu plus de monde. Ça fait deux, au total, hein, ça fait un écart de 200 personnes à l'échelon français, c'est pas non plus considérable. Mais c'est vrai, non, mais cela dit, c'est vrai que c'est décevant.
Et si je peux rajouter une dernière question, depuis plusieurs années, en fait, sur les work packages, tu avais une augmentation de ta productivité. Est-ce que ça, c'est un train qui continue, ou est-ce que tu penses que de ce point de vue-là, il y a plus d'upside potentiel? Et comment ça joue maintenant qu'on est revenu à des niveaux de business à peu près normatifs, voire même forte croissance pour vous, comment ça joue en fait sur la marge? Est-ce qu'on parle de 10, 20 points de base à regagner chaque année, ou est-ce que ça peut être plus important que ça? Et c'est quoi les zones où il y a encore beaucoup à gagner? Est-ce que c'est plus vraiment international? Est-ce que vous serez parti des patrons comme la répartition du chiffre d'affaires, dans tous les pays, il y a un peu à gagner?
De toute façon, la productivité sur les projets, c'est un enjeu, j'allais dire, de tous les instants. C'est-à-dire que sur les projets, il faut gagner sur l'efficacité, il faut gagner sur la gestion des locaux, il faut gagner sur la composition du staffing de l'équipe, etc. Donc effectivement, on s'améliore d'année en année. On va gagner en productivité projet encore cette année par rapport aux années passées. Et on continuera à gagner sur les années à venir. Alors, on ne va pas gagner 150 ou 200 bips d'une année sur l'autre, mais l'appréciation, elle est de l'ordre de ce que tu dis. C'est 10 à 20 bips par an, à peu près. C'est pas spectaculaire d'une année sur l'autre, mais quand on regarde il y a 3-4 ans, on a quand même bien amélioré notre gestion projet.
Top. Merci beaucoup, Bruno.
Frédéric.
Merci, nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Mesdames et messieurs, pour rappel, si vous souhaitez poser une question par téléphone, veuillez composer le 01 sur votre clavier téléphonique. Alors, nous avons une nouvelle question de Monsieur Marcon. Monsieur, c'est à vous.
Excuse-moi, j'en avais oublié une, Bruno. Sur les moins 70 à moins 80 de points de base que tu prends comme hypothèse de pansement sur la direct margin, quelle hypothèse de prix tu as pris pour 2022? Et est-ce que finalement l'effet prix, si tu dis que tu as augmenté tes prix chez 75% des clients, tu n'en as finalement peut-être pas tout le bénéfice en 2022, parce que ça fait au fur et à mesure des renouvellements de projet, est-ce que c'est un effet finalement positif en 2022, mais qui continuera, dont tu bénéficieras encore finalement de cet effort en 2023?
Alors, en fait, la façon dont on fonctionne, c'est une approche bottom-up. Donc, en fait, on ne prend pas des hypothèses d'augmentation des prix comme ça, et des hypothèses d'augmentation de salaire. En réalité, il y a un processus dans lequel, à partir d'une photographie de la situation à date, qui est le mix des salaires et le mix des prix de vente financiers, hein, puisqu'en fait, il y a deux notions dans les prix de vente. Il y a les prix de vente financiers et commerciaux, qui ne sont pas nécessairement les mêmes sur des projets. Toutes les sociétés font des projections d'activité. Et donc, calculent à l'arrivée une marge brut sur projet, qui tient compte de leur embarqué. Donc là, on a 6 mois d'embarqué quand même. Hein. Ça veut dire que quand on voit ce qui s'est passé sur les 6 premiers mois, nécessairement ce qui va se passer sur les 6 mois à venir. Je laisse de côté les problématiques de taux d'utilisation, etc. Mais une grosse partie du business du S2 est déjà engagée, donc ça pourra bouger, mais à la marge, sur la moyenne du ratio prix-salaire dans chaque société. En réalité, on ne prend pas une hypothèse. On ne dit pas on va mettre 3% d'augmentation des prix, on va voir ce que ça donne. C'est pas comme ça que ça marche. On a des hypothèses en début d'année d'évolution des prix moyens par typologie d'offres, parce qu'il y a différentes offres, Et quand on a des augmentations de tarifs, par exemple, sur des work packages, ben, la traduction en marge brute n'est pas la même que sur des activités d'assistance technique ou time and material, par exemple. Donc ça, c'est la façon dont ça fonctionne. Ensuite, pour répondre à la deuxième partie de ta question, oui, les prix qui ont progressé cette année, ben, on va les retrouver l'an prochain, mais les salaires, ils ont progressé aussi. Donc en réalité, on en tirera, le résultat de nos négo prix salaire, et encore une fois, on n'a pas réussi à passer des augmentations de tarifs partout, même si on en a quand même passé pas mal et certaines assez significatives chez certains clients, si cette résultante, c'est une dégradation, cette dégradation de la marge brute, on va l'embarquer pour 2023. Hein. C'est-à-dire que pour qu'elle s'améliore en 2023, il faudra qu'on arrive à faire passer des augmentations de tarifs complémentaires. Ça devrait se faire, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui sont réticents la première année, mais après, au bout d'un moment, ils finissent par se rendre à l'évidence, parce que sinon, c'est compliqué de trouver les ressources. Mais ensuite, la question qui se posera l'an prochain, c'est qu'est-ce qui va se passer sur les salaires. S'il y a un ralentissement d'activité, ben, il y aura forcément moins de turnover, les salaires vont moins augmenter, parce que les gens vont moins bouger, etc. Et puis, les clients, ils débaucheront pas avec des plus-values salariales de 15%, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que ils sont toujours très tatillons sur les prix, mais sur les salaires, ils le sont moins. Tu vois ce que je veux dire. Donc, finalement, un ralentissement d'activité, ça peut paraître surprenant, mais c'est presque souhaitable pour calmer un peu la machine. Et donc, si on arrive à faire passer des augmentations en 2023 et qu'on a de moins d'augmentations de salaire, et ben ça remettra probablement la marge brute où elle était en 2021. Maintenant, je rappelle quand même que 2021, on a fait 11 points d'EBIT et je vous ai toujours dit que ce n'était pas normatif sur une année complète, parce qu'on a eu une augmentation de la marge brute avec des fondamentaux qui se sont améliorés, parce qu'il y a eu quelques augmentations de tarifs, pas évidemment pas générales, mais on a eu des augmentations de tarifs quand même l'année dernière, surtout à partir de choses étaient assez rares à partir de la mi-année chez certains clients, alors qu'on avait gelé les salaires en 2021. On a recommencé à augmenter les salaires à compter du H2 Q3 2021, mais début de l'année, on était en plein Covid, et l'heure était pas aux augmentations de salaire. Donc, on revient sur des niveaux de marge brute qui sont peut-être plus cohérents avec nos marges brutes normatives. Et après, encore une fois, il y a quand même des effets de mix, parce que le groupe grossit beaucoup.
En fait, le moins 70, moins 80, c'est pas du tout l'effet prix salaire. C'est l'effet prix salaire plus l'effet mix, plus l'effet GO.
Il n'y a pas d'effet GO dedans. Non, je dépollue. C'est-à-dire que quand je vous parle...
Géographie.
Ah oui. Ah pardon, excuse-moi, j'ai compris GO. Non, c'est effectivement GO. Oui, GO, je suis d'accord. GO, oui, je suis d'accord. Exactement. C'est
70 moins 80, puis c'est pas le splitter entre ce qui est l'effet prix salaire et le reste.
Non, comme ça, je peux pas. Non. Il faudra qu'on mette en place des outils plus performants. Mais,
Non. C'était au cas où.
Déjà, on mesure. Déjà, on mesure, parce qu'on dépollue tous les autres effets. Hein. C'est déjà pas mal. Hein.
Merci beaucoup, Bruno. Merci pour ta patience.
Je t'en prie, Derek.
Merci, nous n'avons pas d'autres questions, M. Benoyel.
Bon, bah écoutez, à ce moment-là, nous pouvons clôturer la conférence. Merci à toutes et tous d'avoir participé à la conférence d'Alten pour ce premier semestre. La réunion analyste se tiendra donc le 23 septembre au matin, avec une publication soit après bourse le 22 au soir, soit avant l'ouverture le 23 au matin. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes vacances et je vous dis donc à la rentrée. Merci, bonne soirée.
Merci, mesdames et messieurs, la conférence est maintenant terminée. Merci à tous de votre participation. Vous pouvez à présent vous déconnecter.